Lassés des exclusions, des polémiques, des fanatismes, nous pouvons entrer ici et nous asseoir, sans renoncer à ce que nous croyons, sans renoncer à tout ce qui est dans notre intériorité. Accueillis par l'Éternel Dieu, nous n'avons pas à plaider, ni à nous disculper, et rien à prouver. Nous trouvons la paix. Au travers de nos mots maladroits, au-dessus de nos raisonnements qui peuvent nous tromper, Dieu considère en nous les humains que nous sommes. Et en cet instant, cela suffit. Cet accueil porte le nom de grâce. Alors nous voici devant toi, Dieu notre Père, recueillis et prêt à puiser au plus profond de nos cœurs la paix et l'harmonie que tu y déposes, et l'élan et la force que tu nous donnes. Par ton esprit, tu les renouvelles en nous, pour nous, toujours, toi qui es à la source de toute vie. Amen. Aujourd'hui est le jour où nous inaugurons la nouvelle liturgie pour le temps de Pentecôte et le temps de l'Église. Vous avez donc dans la feuille que vous avez trouvée dans les cantiques les nouveaux spontanés que nous allons chanter, peut-être apprendre pendant ce culte. Et nous allons donc commencer par le spontané d'ouverture et je vous invite à vous lever pour chanter « Viens en cette heure au tendre Père ». Et nous restons debout puisque voici le temps de la louange dans laquelle François va nous conduire. C'est une louange du pasteur Jacques Juillard.
Merci pour l'harmonie du monde, pour cette paix à l'horizon, bien au-delà de tout espoir, qui nous précède et nous attend. Pour tant de rythmes divers, tant de couleurs mêlées, tant de voix différentes, tant de timbres et de langues. Merci pour l'harmonie du monde, dans la richesse de sa diversité, ce monde en marche, en mouvement, en attente, en enfantement, qui s'agite et bouillonne sans cesse, où tout meurt et renaît sans fin. Merveille de ta création, où toujours la vie rejaillit. Et les dissonances, les cris, les pleurs, les haines, les malheurs, tu ne les oublies pas, mais tu marches au-delà, plus loin que le mal et la mort. Tu marches devant nous en dépassant nos peurs, nos fautes, nos silences, nos morts, au-delà de toute souffrance, au-delà de toute injustice, plus loin que tout fatalisme, tout conformisme, tout désespoir. Tu marches devant nous. Et par ton amour, tu tires à toi le monde. Sois la force qui nous transforme, qui nous libère et nous unit. L'eau de joie qui déborde dans les déserts d'ennui. La flamme au fond des couloirs d'ombre, le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Sois l'amour qui nous guide au chemin de ton règne. Amen.
Et nous poursuivons cette louange par le chant du psaume 47. Frappez dans vos mains, vous tous les humains.
Oh,
Prenez place. Et c'est encore François qui va nous faire entendre une expression de la volonté de Dieu pour nos vies.
Jésus-Christ dit à ses apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix, la sienne, n'est pas celle du monde. Elle n'est pas dans l'ordre, lorsque l'ordre écrase. Elle n'est pas dans le silence, lorsque le silence naît de la répression. Elle n'est pas dans la résignation, car la résignation est indigne de l'homme. Sa paix, c'est l'amour pour tous, c'est la justice pour tous, c'est la vérité pour tous. Il nous donne, nous, sa paix, c'est à nous de la donner au monde.
Nous nous rassemblons dans la prière, nous nous recueillons, nous nous présentons à Dieu tel que nous sommes en suivant ces mots que Marie va nous dire.
Tu nous as fait prendre part au fil de la vie qui vient de toi. Tu ne permettras pas que ce fil se rompe. Tu connais nos peurs et nos angoisses, notre petite foi et notre fatigue. Tu connais aussi notre orgueil et nos confusions, notre besoin d'être rassuré, les excuses que nous nous trouvons et nos illusions. Relève-nous. Viens toi-même nous recréer avec l'énergie de ton esprit et la clarté de ta sagesse. Amen.
Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce de la grâce de la part de Dieu. François.
Dieu est l'harmonie du monde. Il est l'espace protecteur Il est la lumière dans la nuit. Il est la porte qui s'ouvre à nous. Il est l'ami toujours présent. Il est l'inconnu qui surgit. Il est l'appel du malheureux. Il est le Dieu qui nous accepte. Il est notre vie. Il est la lumière, la vérité, le chemin. Il est notre sauveur en cet instant. Amen.
Et je vous invite à chanter au cantique 253. Chantons de joie vers le Seigneur, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenez place. Je vous invite à prier. Éternel, parfois ta parole a du mal à retentir dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que se rejoignent en nous, parmi nous, ta parole, ta présence profonde, ton dynamisme créateur qui travaille nos vies, nos pensées, nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit qui fait souffler des vents libérateurs et trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus le Christ a marché et où il nous invite à le suivre. Amen. Le texte que nous méditerons aujourd'hui a été au cœur d'une pause spirituelle, ce temps mis à part une heure le jeudi, c'était il y a quelques semaines. Mais de plus, le récit de Pentecôte dans le livre des Actes que nous avons lu dimanche dernier invite à relire ce récit. Ce sera donc aujourd'hui. Mais nous allons commencer par lire à nouveau le récit de Pentecôte, celui du livre des Actes, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'étaient pas là dimanche dernier. C'est donc dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 1 à 9. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les merveilles de Dieu. Et puis nous lirons donc dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, les versets 1 à 9. Toute la terre parlait la même langue, avec les mêmes mots. Partis de l'est, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Faisons donc des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors, « Bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. L'Éternel dit, « Ainsi ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Descendons donc, et là brouillons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. » L'Éternel les dispersa de là sur toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'a appelée du nom de Babylone, ce qui signifie « brouillage », car c'est là que l'Éternel brouilla la langue de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la terre. Le récit de Babel, de la tour de Babel, est un récit extrêmement connu. Il est aussi abondamment représenté avec de très nombreuses illustrations depuis des temps très anciens jusqu'à des représentations très contemporaines. Et nous pouvons particulièrement penser à celle de Peter Bruegel, l'Ancien, dont le tableau intitulé « La grande tour de Babel » est certainement l'un des tableaux les plus connus au monde. Mais ce récit est le plus souvent compris comme étant celui d'une condamnation et du châtiment divin de l'orgueil humain. En effet, ces humains du récit veulent se faire un nom ou une renommée. Et ils se lancent pour cela dans une gigantesque entreprise, celle de construire une ville avec une tour dont la tête, le sommet, ira toucher les cieux. Alors, toucher les cieux, c'est aborder le domaine de Dieu, et non seulement le déranger, mais certainement aussi l'envahir, et finalement prendre la place de Dieu. une forme, en quelque sorte, de remake du Jardin d'Éden, mais où l'humain joue pour lui-même le rôle du serpent tentateur. Il n'y a plus besoin de serpent tentateur extérieur. Il est vrai que l'histoire, dans son ensemble, et particulièrement l'histoire récente, au XXe siècle, avec les atrocités des régimes fascistes en Europe, dans le monde, a permis aux théologiens de lire dans l'organisation des humains de Babel celle d'un modèle de totalitarisme. Non seulement ces humains parlent une même langue, d'une même bouche, ce qui est une chose, mais en plus ils disent tous exactement la même chose. Et littéralement, d'après le texte hébreu, ils disent « briquetons des briques et cuisons-les à la cuisson ». Ils sont tous alignés dans la même pensée, engagés dans la même tâche, avec ce but de construire une tour qui touche les cieux. Ce qui les caractérise est donc l'uniformité, et l'on ne sait plus très bien finalement qui est humain et qui est brique. C'est un peu la même chose, puisque tout le monde est passé par le même moule et la même cuisson. Même dimension, mêmes angles, même couleur, tout cela empilé. La réduction des personnes dans un état uniforme de briques, de matériaux dépourvus d'individualité, avec un langage uniformisé et contrôlé, visant à empêcher le déploiement d'une pensée indépendante et critique. Ces mécanismes mis en place par les pouvoirs totalitaires sont aujourd'hui bien connus. Et le récit des humains de Babel s'offre alors comme un miroir à ces terribles entreprises. Chers amis, un mythe n'appartient jamais au passé. Il se tient dans le présent comme une clé d'interprétation de l'histoire et des histoires. Et il n'y a pas que les grandes Babel du nazisme ou des Khmers rouges, il y en a aussi de toutes petites, à l'échelle d'un groupe restreint, mais dont les membres ne valent pas plus qu'une simple brique. Certes, il n'y a pas de chef à Babel, pas de guide suprême, pas de gourou, c'en est presque plus effrayant. Beaucoup de briques sont fabriquées à Babel. Ces humains sont ingénieux. Et la technique de la brique est parfaitement bien mise au point. Mais n'importe quelle technique pourrait être mise au service de l'ambition extrême, d'un projet extrême de se faire un nom, une renommée. Un projet qui uniformise et donc appauvrit les esprits. Haute jusqu'au ciel, la tour servira de repère, de ralliement. Aucun humain ne la perdra de vue. Elle sera le symbole puissant de ce commun de langue et de lieu qui rassemble les humains de Babel. Et comme souvent, l'orgueil est adossé à la peur. La peur de la dispersion sur toute la surface de la terre. La peur de la dispersion comprise comme un danger, comme une perte. Et ce qui serait perdu, c'est l'identité, cette identité commune générée et renforcée par la langue unique et le projet commun. L'identité d'humain de Babel est infiniment préférable et désirable, au point qu'il n'y a de place pour aucune alternative. Et Dieu descend pour voir ce qu'il en est. Dieu évalue la situation et ce qui est en jeu. Dieu brouille la langue et disperse les humains sur toute la surface de la terre. Mais pourquoi ? A demandé une des personnes de la pause spirituelle. Pour une fois que tout le monde se mettait au travail ensemble. Pour une fois que tout le monde était d'accord sur un projet. Pour une fois qu'on se comprenait. Est-ce que ce n'est pas souhaitable ? Est-ce que l'humanité ne se porterait pas un peu mieux si au moins de temps en temps, tous s'accordaient. Et il est vrai. Il est vrai que le récit de la Genèse que nous venons de lire ne porte aucun jugement négatif sur les humains de Babel. Ils ne sont pas des coupables. Quelques chapitres avant, dans le récit du déluge, il est clairement indiqué que le mal des humains avait été grand sur la terre, que les cœurs n'étaient remplis que de pensées mauvaises. Mais aux humains de Babel, Dieu ne fait pas de reproche. Il ne dit pas qu'ils sont orgueilleux. Qui plus est, la ville n'est pas détruite par un feu tombé du ciel, comme cela se produit pour Sodome et Gomorre quelques pages plus loin. Il est simplement indiqué, les humains cessèrent de bâtir la ville. C'est tout. Franchement, quel mal y aurait-il à habiter, à cohabiter dans la même ville ? Et si cette tour est construite jusqu'au ciel pour mieux communiquer avec le ciel, avec la transcendance, avec Dieu, quel est le problème ? On dirait que dans ce récit, Dieu agit de manière préventive, comme si les humains de Babel ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Le brouillage de la langue, la diversité des langages et la dispersion viennent alors contrer le risque d'un danger, d'un malheur inhérent à cette situation, un danger inévitable et majeur. Alors bien sûr, il y a le risque du totalitarisme. Mais pour nous aider à comprendre la nature profonde de ce danger, le récit nous livre l'évaluation de Dieu sur l'œuvre des humains de Babel. Ce n'est là que le commencement de leur œuvre. Désormais, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Le risque, le danger de Babel, c'est cela, que rien ne les empêchera. Alors cette extrême capacité humaine est vertigineuse. Elle peut être même séduisante. Mais alors, il n'y a plus de limite. Et les premiers chapitres de la Genèse, de 1 à 11, posent la limite comme condition de l'humanité des humains, en ce que ces chapitres mettent en scène l'œuvre divine de création comme l'instauration de limites. Limites posées aux ténèbres par la lumière, limites posées à la mer par la terre ferme, limites posées à l'humain dans le jardin par l'interdit de manger du fruit de l'arbre de connaissance du bonheur et du malheur. Et quand cette limite est transgressée dans le jardin, c'est l'interdit de l'arbre de vie qui est instauré comme limite avec un redoutable kéroubim qui en défend l'accès. L'œuvre divine est racontée comme œuvre de séparation, de distinction, et cela afin que puisse apparaître la diversité et les différences, non seulement celles entre espèces de vivants, végétaux, animaux, mais aussi entre humains. Et qu'au chapitre 4, Caïn tue son frère Abel, manifeste combien cette différence, cette altérité, même sous le mode de la fraternité, met chaque humain à l'épreuve. Et hors du jardin d'Éden, c'est-à-dire pour nous les humains, dans le monde et dans le temps, pour nous, demeure la limite que représente l'altérité. Et c'est celle qui risque d'être franchie, plus encore abolie à Babel, avec le langage unique, la pensée unique qui entraîne cette uniformité de briques, cette indifférenciation entre les humains de Babel. Ce qui est engagé à Babel n'est rien moins qu'une œuvre de décréation. Mais alors, il n'y aurait plus d'humanité. Cette humanité de parole et de relation à laquelle est offerte une alliance. pour la vie. Alors le récit raconte que Dieu opère une nouvelle séparation dans la langue et dans le lieu, afin de relancer de l'altérité dans l'aventure humaine et d'y préserver la possibilité de la diversité. Lorsque nous craignons de perdre notre identité dans la dispersion, c'est-à-dire dans l'épreuve de la différence, le récit de Genèse rappelle que si, oui, l'altérité bouscule notre identité, puisque ce n'est pas la même que la nôtre, eh bien c'est ainsi, grâce à l'altérité, que notre identité évolue et reste dynamique. Quand il n'y a ni écart, ni différence, il n'y a que de la répétition, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de transmission, rien ne passe de l'un à l'autre, rien ne change, rien n'évolue, et notre identité fixe devient une identité vide, une identité sans vitalité, une identité morte. Babel est une impasse, rien n'y passe. Et le Dieu dont témoignent les Écritures, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu passionné par la diversité, par le foisonnement des diversités, le grouillement, est-il écrit au premier chapitre de la Genèse. Il vise à favoriser cette diversité, à tel point que le théologien catholique André Vénin peut écrire qu'en dépit de son étymologie, Babel, peut signifier « porte de Dieu », eh bien la porte de Dieu, ce n'est pas la ville. La véritable porte de Dieu, c'est la diversité humaine. La dispersion n'a pas d'autre objectif que de répandre cette diversité. Le brouillage des langues n'a pas d'autre but que d'engager à la rencontre de l'autre, à la traduction et au dialogue. Et nous, nous partons de là, de cette dispersion, de ce brouillage de langues, de cette réalité de diversité et d'altérité qui est garantie de notre propre singularité, celle dont manquent les humains de Babel, d'hier ou d'aujourd'hui, qui par peur n'envisagent que le même, les mêmes, au prix toujours de la liberté et de la responsabilité. Car liberté et responsabilité ne peuvent être effectives qu'en diversité et jamais en uniformité. La liberté, biblique, évangélique, ne se joue pas dans un rapport à soi, au même, mais dans un rapport à l'autre, au différent. Et la responsabilité entend premièrement que réponse est un appel puissant à l'individualité et à la singularité. Diversité, pluralité, liberté, responsabilité sont des expressions de la visée divine en faveur de l'humain. Et c'est aussi celle de l'Église, car c'est ainsi que chacun est libéré pour son propre chemin, ses propres convictions, sa propre manière de vivre. Et le résultat, ce n'est pas un grand n'importe quoi informe. Le résultat, c'est l'hospitalité, accueil et reconnaissance d'autrui. Hospitalité fondée sur la confiance de Dieu envers chacun. Hospitalité fondée sur la confiance faite chair qu'a été Jésus le Christ. Le résultat, c'est l'engagement dans le dialogue. Pas une juxtaposition indifférente à l'autre, aux autres, mais la parole et la traduction, y compris dans la même langue, afin que chacun nous puissions rendre compte de ce que nous portons à nous, en nous, et de ce qui nous porte, non pour nous justifier, mais pour rencontrer, comprendre et partager. Genèse 11 est un récit pour sortir des confinements. Car la dispersion pour la diversité n'aboutit pas au terrible isolement de chacun, elle trouve son accomplissement dans la communion de Pentecôte. Les récits de Babel et de Pentecôte correspondent, malgré leurs écarts d'époque, de rédaction, de culture, de langue de rédaction, hébreu pour l'un, grec pour l'autre. Et il nous enseigne qu'à Babel, Dieu sauve les humains d'un grand danger, parce que le Dieu créateur est le Dieu sauveur. Et ce grand danger est celui d'une fusion générale de tous, qui conduit à ce que plus personne ne compte, plus personne n'a de valeur, plus personne n'a de dignité. Et n'allons pas croire que ce danger est derrière nous. Il est autour de nous, il est devant nous. Et nous avons besoin d'un grand coup de vent de l'esprit quand ce danger est sur nous, pour en être à nouveau sauvés. C'est-à-dire pour ne pas nous laisser séduire ou endormir quand la pression de l'uniformité menace la diversité. Un rassemblement qui se constitue dans le refus de la différence, de la diversité, a besoin d'un grand coup de vent de l'esprit pour ne pas se pétrifier et dévitaliser tous ceux qui le composent. La juste visée de l'unité de l'ensemble et du commun, c'est la diversité. Et la juste visée de la diversité, c'est l'unité, l'ensemble, mais dans le dialogue et la reconnaissance. Et l'esprit souffle de Dieu et l'énergie de ce mouvement. Il est l'élan de ce dynamisme. Babel et Pentecôte sont deux textes miroirs pour le monde, pour l'Église et pour chacun de nous. Faut-il être le même que les autres pour faire partie d'un ensemble? Qu'est-ce qui me pousse à chercher mes semblables? Qu'est-ce que j'y cherche? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce qui me transforme? Nos constructions, nos projets, offrent-ils une réelle possibilité d'élévation d'autrui et de la qualité de nos relations? Ce n'est pas un châtiment de vivre parmi d'autres et avec d'autres différents. Ce n'est pas une corvée, c'est une chance. C'est comme du levain dans la pâte humaine de chacun. C'est un engagement d'humanité. Et c'est même une mission. Voyez-vous, le texte d'évangile proposé aujourd'hui à la méditation de toutes les églises, c'est la finale de l'évangile de Matthieu. Lorsque le ressuscité dit à ses disciples, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Mais ne faites pas tous le même disciple. Ne faites pas de tous le même disciple. De même que les 11 sont différents les uns des autres, Pierre de Jean et Thomas de Matthieu, mais aussi apprenez à traduire pour ceux qui n'ont pas la même manière de parler et de vivre. » Traduire l'Évangile, traduisez malgré toutes les difficultés que la traduction rencontre, élargissez votre horizon et le leur. Et puis Jésus poursuit, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Cet esprit de diversité, par lequel chacun est reconnu inconditionnellement, qu'il soit petit enfant, ou quel que soit son parcours de vie et de foi. Et Jésus termine. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Oh, pas des dogmes à suivre, à apprendre et auxquels se soumettre tous ensemble. Mais ce que Jésus a enseigné, c'est comment vivre et vivre de la divine confiance inconditionnelle, personnellement adressée et reçue. De Babel à Pentecôte et à d'autres textes bibliques encore, se tisse la toile chatoyante de multiples rencontres, d'une pluralité de dialogues et de la diversité humaine qui est la porte de Dieu. Amen. C'est avec la confession de foi de l'Église des Remontrants des Pays-Bas que nous exprimerons la nôtre aujourd'hui, au moins en partie. Je vous invite à vous lever pour l'entendre. Marie va la lire.
Nous affirmons de manière consciente que nous ne cherchons pas notre paix intérieure dans la certitude d'une confession de foi, mais dans la joie de ce que nous recevons. Que nous ne cherchons pas le but de notre vie dans une attitude d'indifférence et d'avidité, mais dans la relation attentive avec tout ce qui vit. Que notre vie n'est pas accomplie par notre réussite humaine et nos possessions, mais par ce qui est infiniment plus grand que nous. Conduits par cette prise de conscience, nous croyons en l'Esprit de Dieu qui transcende tout ce qui divise les peuples, les ouvre à ce qui est saint et bon. Il agit dans le chant et dans le silence, dans la prière et dans le travail, afin qu'ils adorent Dieu et vivent de lui. Nous croyons en Jésus, âme animée par l'Esprit divin, visage de Dieu. Ce regard nous déstabilise. Il a aimé l'humanité, il a été crucifié, mais il est vivant, par-delà sa mort et notre mort. Il est notre exemple ultime de sagesse et de courage. Par lui, l'amour éternel de Dieu est proche de nous. Nous croyons en Dieu l'Éternel. Il est amour insondable, fondement de l'être. Il nous montre le chemin de la liberté et de la justice et nous ouvre à un avenir de paix. Nous croyons que, bien que faibles et faillibles, nous sommes appelés à être l'Église, connectée au Christ et à tous les croyants, signe d'espérance. Nous croyons en l'avenir de Dieu et du monde, en une patience divine qui nous donne le temps de vivre, de mourir et de revivre en un royaume qui est et qui vient, Dieu éternel, tout en tous. À Dieu soit gloire et honneur pour le temps et pour l'éternité. Amen.
Place. Voici le moment des annonces. D'abord pour vous dire que aujourd'hui nous accueillons brièvement juste le passage d'une trentaine de personnes invitées par le CASP et pour lesquelles nous avons préparé des paniers, des sacs avec un repas et puis quelques objets pour les accompagner, les réconforter, soulager un peu leur dénuement. Donc à partir de midi, je crois, ils viendront. Nous ne pouvons pas les accueillir pour un repas, comme cela se fait habituellement dans notre paroisse et dans beaucoup d'autres paroisses de la région parisienne. En raison de la crise sanitaire, nous préparons des paniers. Et c'est aujourd'hui au foyer de l'âme qu'aura lieu cette distribution. Vous dire aussi que, comme tous les dimanches, bien sûr, il y a la collecte alimentaire au profit de la Croix-Rouge. Vous trouverez d'ailleurs dans le bulletin du mois de juin, que vous avez peut-être déjà reçu, qui va vous être envoyé par mail. Vous allez le recevoir alors, si ce n'est pas fait, dans les jours qui viennent. Vous y lirez un article justement sur l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement à laquelle sont apportés vos dons. Cette collecte a lieu tous les dimanches. Produits alimentaires non périssables, produits d'hygiène et produits d'entretien pour ces personnes qui ont besoin d'être soutenues. Particulièrement, produits d'entretien multi-usages, particulièrement des conserves en demi-boîte, des plats cuisinés en conserve en demi-portion, pas la grosse boîte là, celle du milieu. Et puis, si vous trouvez aussi des petits paquets de lessive en poudre pour aller à la laverie, c'est plus pratique. Romain.
Oui, bonjour. Juste aussi une remarque que nous a fait Pascal, la bénévole qui gère l'épicerie, c'est qu'il y a dans les classes défavorisées des gens qui sont souvent musulmans. Donc si vous avez aussi la possibilité de penser à prendre des plats qui n'ont pas de porc, ça serait très bien, ça permettrait de diffuser parce qu'il y a une petite accumulation de plats qui contiennent du porc et que donc ces gens ne peuvent pas utiliser. Merci.
Dans les activités de la semaine à venir, voilà, mardi, c'est le 1er juin. Il y aura à midi la pause biblique. Nous terminons notre parcours sur les naissances de Jésus. Donc ce sera notre dernière réunion de l'année et nous proposons de la faire en présence et d'abandonner les écrans pour cette dernière rencontre qui nous permettra de faire le bilan du parcours et puis aussi de choisir un thème pour la pause biblique de l'année prochaine. Le jeudi 3, ce sera comme tous les jeudis de 12h30 à 13h30 la pause spirituelle. Une heure donc mise à part pour le silence, la lecture d'un texte biblique, le partage, la prière. Vendredi 4, ce sera les JMJ. Est-ce que quelqu'un sait de quoi on va parler aux JMJ vendredi? Comme je n'étais pas à la dernière, je n'ai pas suivi. Je me demande si on ne va pas continuer à partager des lectures pour l'été. Enfin, si vous voulez plus de renseignements, on vous enverra un lien et une annonce, on enverra à ceux qui le demanderont pour cette réunion du 4, si j'ai un trou de mémoire. Et puis il y aura après un week-end bien rempli, puisque samedi 5 à 18h dans le temple, nous aurons la joie d'écouter notre ami Denis Guénoun, qui viendra parler au sujet de son dernier ouvrage, Matthieu, que quelques-uns ont lu, qui sera disponible samedi grâce au stand de la librairie protestante. Cette rencontre avec Denis autour de la figure, autour de ce que lui a inspiré le prénom Matthieu, sera sous forme de dialogue, pour commencer un petit dialogue avec moi, très brièvement, avant de laisser la place à ceux qui viendront pour des questions et des échanges. Voilà, donc samedi, ici, de 18h à 19h30, avec Denis Guénoun, et donc je voulais signaler la librairie protestante Jean Calvin qui viendra avec un stand de tous les ouvrages de Denis. Voilà. Dimanche 6, à 10h30, il y aura un culte, un petit culte, puisqu'à 11h, ce sera l'Assemblée Générale de l'Association Cultuelle de l'Église Protestante Unie de Paris-Bastille-Le Foyer de l'Âme. C'est le nom complet. Donc, ce sera dimanche prochain à 11h. Vous y êtes tous bienvenus, tous invités, même si vous n'êtes pas membre de l'association cultuelle. La seule différence entre les deux, c'est que les membres de l'association peuvent voter et pas les autres. Mais tout le monde peut participer, s'informer. Cette assemblée générale sera principalement axée sur des questions de communication avec la présentation et discussion sur ce qui a été récemment mis en place au foyer de l'âme, plus ou moins récemment d'ailleurs, et ce qui pourrait peut-être être envisagé pour l'avenir. Donc ce sera samedi matin, 10h30 le culte, 11h l'assemblée générale. Et puis l'après-midi, à 17h30, ce sera le culte cantate, puisque nous avons encore la chance de bénéficier de cette articulation, de cette conjonction entre le culte et la cantate, qui aura lieu donc ici à 17h30, une cantate dont j'ai oublié laquelle c'est. 187, merci. BWV 187, merci Isabelle. Et il y aura donc un ensemble musical, c'est Frédéric Rivoal qui coordonne la cantate pour dimanche prochain. Et avec les récentes mesures, les évolutions, assouplissement des mesures de distance, de protection sanitaire, eh bien nous pouvons accueillir jusqu'à 100 personnes pour cette cantate. Donc il y aura plus de place que pour la précédente. Mais comme 100 personnes, c'est quand même un nombre limité, il faudra s'inscrire. Et s'inscrire à partir de cet après-midi à l'adresse contact@foyerdelame.fr, une adresse que vous trouverez en première page du site du Foyer de l'Âme pour vous inscrire. L'inscription est obligatoire. Nous partageons les places entre les paroissiens et les amis de la cantate. Donc il y aura une centaine de personnes, ce qui est beaucoup moins que les 300 habituellement rassemblés pour les cantates. Nous espérons que bientôt, bien sûr, ce sera entrée libre. Est-ce qu'il y aurait autre chose à se dire ? Des choses que j'aurais oubliées ou dont je n'aurais pas connaissance. Bienvenue particulièrement à tous ceux qui sont ici pour la première fois. Il y en a quelques-uns encore aujourd'hui et quelques-unes, donc bienvenue particulièrement à vous. Alors, s'il n'y a plus rien à dire pour le moment, il y a quelque chose à faire. Un geste de louange et de confiance, un geste de reconnaissance et de solidarité. C'est le temps de la collecte. Et pendant ce temps d'offrande, bien nous allons chanter. Et nous chanterons le cantique 288. Toujours tu es présent Seigneur, nous le chanterons en entier. Mais comme il n'est pas très connu, Nicole va en jouer la mélodie pour que nous l'ayons un peu dans l'oreille. Et après qu'elle aura joué le couplet en entier, la strophe en entière, nous commencerons à chanter. Nous le chantons en entier, le 288. Je vous invite à vous lever. Il n'est pas facile, hein ? Mais il est beau, je crois qu'on le rechantera. Voici le temps de nous rassembler dans la prière d'intercession. Et je vous invite à vous associer du cœur à cette prière qui est une traduction de français à français de la prière du Notre Père, qui est une traduction de grec à français et à français de la prière du Notre Père, et même certainement en fait une traduction de l'hébreu, d'un hébreu original au grec, un hébreu qui n'était pas la prière du Notre Père, mais une prière juive, au grec de la prière du Notre Père telle que nous la trouvons dans les évangiles, au français la prière du Notre Père habituellement dite, et ceci est encore une autre traduction. Un autre genre de traduction. Notre Père qui est au-delà de tout et même du ciel, que ton nom soit mis à part et qu'il ait une place de choix dans nos vies. Que tu sois de plus en plus reconnu, respecté, écouté, suivi, parce que tout ce qui arrive, ici et ailleurs, n'est pas toujours le bien. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain spirituel, ce pain de vie qu'est ta parole divine, ta présence, ton esprit, ton être même, ce pain qui peut nous nourrir pour l'éternité et nous donner la force qui vient de toi. Parce que tu nous pardonnes, aide-nous à notre tour à nous pardonner mutuellement. Fais que nous ne soyons pas enfermés dans l'épreuve, vaincus, anéantis par elle, afin que nous puissions relever la tête. Mais délivre-nous, libère-nous, car le mal est là et il emprisonne. Nous te disons tout cela avec confiance, car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, le pardon et la paix au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, chanter le spontané, le dernier, et puis recevoir ensuite la bénédiction de la part de l'Éternel. Éclairé par ces textes de Babel et de Pentecôte, voici la mission de l'Église. Annoncer et manifester à tous les humains l'amour inconditionnel dont Dieu aime chacun, la diversité belle et bonne dans sa création, la liberté qu'il nous donne dans la foi et l'espérance selon laquelle aucun humain n'est perdu, mais toujours promis à la vie. Amis, frères et sœurs, L'Éternel vous ouvre les chemins de la vie. Il vous accompagne tout au long de votre route, quels que soient vos déserts, vos tunnels, vos passages difficiles. Son amour soutient votre confiance, sa confiance soutient votre existence. Il vous bénit aujourd'hui et chaque jour. Amen.